vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Émission numéro 44. Monsieur Livre, c'est moi. Chers amis, bonjour. Alors, dans l'émission, vous l'avez bien connu, on dit toujours que le meilleur ami des enfants, le meilleur ami de l'homme, c'est le livre. Et aujourd'hui, nous recevons Salem Drissi, qui est élu municipal, conseiller municipal délégué à la lecture publique à Strasbourg, à la politique du livre, président du Palais des Congrès. Alors, vous êtes une personnalité incontournable des bobos culturels à Strasbourg.
Bonjour Salem Drissi.
Bonjour Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité dans votre émission.
Quel est votre rapport à la culture, au livre ?
Oh, mon rapport à la culture, c'est d'abord c'est mon rôle au conseil municipal de Strasbourg qui a une tradition de culture, de lecture, depuis toujours, depuis la construction de la Bibliothèque nationale de la BNU, où on a tous passé notre enfance et notre adolescence, et surtout nos années de fac. Et puis, Strasbourg est quand même une ville culturelle extrêmement renommée, qui a été une ville de gens intellectuels, et donc je suis dans cette grande mouvance.
Très bien. Et vous lisez, Salem Drissi, est-ce que vous lisez régulièrement ? Depuis quand vous lisez ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est une vraie question de journaliste qui essaye de piéger un élu municipal. Bien sûr, je vais vous répondre, je n'ai plus le temps de lire, parce que c'est tellement compliqué de suivre toute l'actualité, la culture et tout. Mais non, je me fais des temps de lecture, comme il y a des gens qui font une heure de jogging par jour. Moi, je m'oblige à prendre le temps de lire. Et une fois que je rentre dedans, je suis obligé de prendre le temps de m'arrêter parce que j'ai plein d'obligations. Mais j'ai commencé à lire très tôt. Je suis né au sud de l'Alsace, hein, c'est à Belfort. Dans une famille, mon papa était ouvrier et travaillait chez Peugeot. On n'avait pas forcément, on avait la télé, donc on regardait la télé. Mais quand même, papa et maman, surtout maman, hein, elles faisaient autre chose que de faire juste la cuisine. Elle nous a poussé, les frères et sœurs, à lire. Alors certains ne sont pas vraiment rentrés dans une carrière, disons, culturelle. Mais moi, j'ai bien senti que pour... alors maintenant, on utilise un mot que j'aime pas trop, mais il dit bien ce qu'il dit. Pour m'émanciper, j'ai bien senti que le livre, c'était un bon moyen... pardon papa, pardon maman, mais de ne pas être ouvrier. Et donc, j'ai plongé dans les bouquins. Et franchement, c'est génial.
Par contre, Belfort, c'est en Franche-Comté. Monsieur Drissi, vous ne connaissez plus votre géographie.
Oui, excusez-moi Ambroise, oui. Mais non, je voulais dire que... Alors, au nord de Wissembourg, c'est le sud de la Finlande, et au sud de Mulhouse, alors ça pourrait être la Méditerranée, quoi. Donc, à cause de mon nom et tout, donc je dis toujours le sud de l'Alsace, bon, effectivement, mais c'est en Franche-Comté.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture ?
Eh ben oui. Et alors Ambroise, là, je vais vous épater. Et vous allez me dire, ah, vous faites ça pour me flatter, parce que je sais, Ambroise, que vous êtes un modeste mais génial spécialiste de Flaubert. Mon premier livre de lecture, alors ça devait être en seconde, avec un prof génial qui nous a incités à faire plein de choses. Enfin, c'était, pourtant moi je suis né dans les années 70, donc bien après mai 68 pour... mon adolescence, mais enfin quand même, on vivait encore mai 68 par procuration. Eh bien, ce prof nous a fait lire Madame Bovary. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, on se retrouve aujourd'hui. Et en lisant Madame Bovary, il nous a fait comprendre que ce n'était pas que l'histoire de cette femme qui s'ennuyait avec son mari et qui rencontrait plein de gens. Elle nous a donné vraiment envie, cette héroïne de roman, de penser que l'écriture, c'était un moyen de sortir de sa condition, de raconter les choses autrement. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation.
Ça a été l'événement déclencheur pour vous.
Ce fut comme une apparition, comme dit Flaubert dans L'éducation sentimentale, lorsque le héros rencontre pour la première fois Madame Schlesinger dans la vraie vie. Et oui, ce fut pour moi une lecture déclencheuse, oui, d'accord, effectivement.
Vous aviez d'autres lectures qui sont venues juste après, peut-être ?
Oui, oh ben, une fois qu'on a plongé dans les livres et qu'on essaye d'être un bon élève, je dois dire que j'étais un bon élève, j'avais cette espèce de fouet intérieur, le martinet que mes parents n'utilisaient pas, je me le donnais moi-même pour bien travailler, pour être bon à l'école, par rapport à mes copains, même si tout le monde s'en foutait de qui on était, d'où, qu'est-ce qu'on faisait, enfin on était des potes, mais je sentais bien que la culture, la lecture me permettait d'aller par-dessus, je réutilise ce mot, ma condition. Et effectivement, j'ai lu, alors, j'ai lu peut-être par militantisme, parce que quand on a 16, 17, 18 ans, on devient un petit peu gauchiste, ce qui était le cas. J'ai lu, bien sûr, Maupassant, parce que c'était...
C'est pas du gauchisme, Maupassant, quand même.
Non, ça mais même... parce que c'est un peu l'héritier de Flaubert. Et puis après, j'ai lu Zola. Les Rougon-Macquart. Alors, je me souviens surtout de Nana, de L'Assommoir, de Germinal. Bon, ce sont des lectures enthousiasmantes et qui se disent, bon, il faut changer le monde, il faut faire la révolution. C'est comme ça que je me suis un petit peu engagé en politique.
Et au cours de vos années étudiantes, vous avez fait quel type d'études ? Dans quel domaine vous vous êtes
alors,
investi.
J'aurais pu faire des études littéraires, mais on ne fait bien sûr jamais exactement. Donc j'ai fait des études d'économie, mais ça a été pour moi une sorte de diversité dans mes études, parce qu'en fait, je suis devenu documentaliste, ce qui est quand même quelque chose qui est plus lié à la littérature ou à la culture que l'économie, où j'aurais pu devenir, je ne sais pas moi, employé de banque. Mon Dieu, quelle horreur. Je suis devenu documentaliste. Et c'était un métier très intéressant parce que j'ai eu un poste dans un lycée. Alors, ce n'était pas en Alsace, c'était bien plus loin, en Seine-Maritime. Et le contact avec les élèves dans un lycée professionnel... Les élèves viennent pour un exposé, ils veulent une petite phrase toute faite, mais moi, je leur disais, non, il faut que tu lises tout ça pour trouver toi-même la petite phrase qui va t'aider dans ton exposé. Et c'est un métier modeste, mais capital dans les lycées, et je trouve ça très bien, parce que le documentaliste, c'est pas le bibliothécaire. Hein. Le bibliothécaire, bon, il donne des bouquins et il conseille et tout. Le documentaliste, c'est plus subtil comme rapport. D'abord, il faut avoir des très bons contacts avec les profs, parce que les profs vont toujours vous prendre pour un concurrent ou pour quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne faut pas. Il faut jouer le jeu du programme, le jeu du prof, et en même temps, on sert de tampon pour les élèves. Et ça, c'était très intéressant, parce que ce rôle d'éponge... Eh bien, quand on la presse, qu'est-ce qui sortait ? Eh bien, des titres de livres. Et ça, j'ai bien aimé le faire avec les élèves. Et dans mon rôle de conseiller municipal, en ce moment, à Strasbourg, c'est un petit peu ce que je fais avec mes collègues conseillers municipaux, avec ma grande chef, hein, qui est l'élu, mais également avec les gens que je rencontre dans les nombreuses bibliothèques de Strasbourg, ou médiathèques, comme on dit maintenant. Voilà, j'essaye de les faire sortir des clichés, des chemins battus, voilà. Et donc,
on voit très bien le lien que que vous faites entre votre volonté d'émancipation,
oui,
et le rapport au livre, et finalement à votre métier de documentaliste. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui vous ont touché ces dernières années?
Alors, j'ai lu des auteurs russes que je ne connaissais pas trop. Je me lis parfois à l'actualité. Alors, Pierre Kropotkine, c'est un copain qui m'a dit « Tiens, il faut absolument que tu lises ça ». Et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» C'est vraiment... C'est toujours bien de se lancer dans les choses qu'on ne connaît absolument pas. C'est comme la presse, comme les journaux. Par exemple, on lit parce qu'on est un petit peu de cette couleur, de cette tendance. On va lire Le Monde, on va lire Libération. Bah, de temps en temps, je lis La Croix et je lis Le Figaro. Parfois à valeur actuelle, mais enfin là, c'est vraiment avec beaucoup de dérision. Mais c'est toujours bien de lire des choses qu'on ne connaît pas, absolument pas. Comme moi, j'aurais plutôt tendance à lire que les suppléments livres des quotidiens, des journaux. Eh bien non, je vais lire un compte-rendu sur le tennis, que je déteste absolument. Enfin, j'ai jamais vu un match de ma vie, je ne suis pas du tout sportif. Je vais lire un article sur les îles Galapagos, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, je vais trouver ça passionnant.
Qu'est-ce que vous avez retenu alors de Pierre Kropotkine?
Alors, moi, c'était le parallèle entre le féodalisme et le capitalisme. Hein. C'est deux systèmes dont le but, c'est de laisser les pauvres à leur place, hein, la pauvreté de masse. Et finalement, ça rejoint un petit peu, alors avec des grands mots, et puis c'est l'histoire, mais c'est cet esprit de l'entraide. C'est quelque chose de très important, de cette solidarité. Et je pense que tous les élus, quelle que soit leur couleur politique, ont ceci en tête, c'est de se dévouer au service public, à la cause publique. Quand on est élu, au début, on est content, on est fier, on a sa photo dans le journal, mais après, c'est un sacerdoce. Hein. On bosse 18 heures par jour, on a envie que les choses se réalisent, on en prend plein la figure parce qu'on est tout le temps critiqué, souvent par des gens qui ne savent pas exactement ce que l'on fait. Et donc, chez cet auteur, j'ai trouvé cette essence d'être proche des... Alors, lui, il dit des masses, aujourd'hui, on dit des gens. Et je trouvais ça très intéressant, oui.
Merci beaucoup de m'éclairer, Salem, parce qu'effectivement, moi, je suis très éloigné de ces lectures.
Oui, mais alors, vous, Ambroise, je sais que...
J'ai des lectures plutôt bourgeoises et plutôt de droite comme littérature, donc merci beaucoup pour... Ouais.
C'est pour ça que vous dites souvent à la radio, parce que j'écoute parfois votre émission, Ambroise, hein, qu'il faut lire Proust, c'est pour ça? Alors c'est là, on inverse les rôles, là, moi je vous pose une question, mais je pose la question aux journalistes. Pourquoi est-ce que vous dites tout le temps à la radio qu'il faut lire Proust et qu'il faut manger la tarte au fromage de la rue Gaillard?
Proust, c'est une œuvre monumentale, Salem, vous le savez.
Ben oui.
Vous le connaissez, Proust?
Oui, ben écoutez, moi j'ai...
Qu'est-ce que vous connaissez de Proust?
Ben bien sûr, ben, la recherche, il n'y a que la recherche, mais c'est vrai que je me suis lancé dans Proust, et comme beaucoup de gens littéraires, je me suis un peu forcé parce que je me suis dit, il faut absolument que je sache. J'ai mis du temps à m'y mettre dedans. Il faut recommencer plusieurs fois, puis un jour on est accroché. Hein, on a le virus... oui, c'est bien. Mais je vais vous faire un aveu, puisqu'on est à la radio. Je vais faire cet aveu à un journaliste de radio, Ambroise Perrin. Je vais vous dire, Proust, je l'ai lu, mais surtout, je l'ai écouté. Il y a un coffret avec, je crois, 120 CD.
Audio.
Oui, c'est ça.
Ah, vous connaissez. C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, avec Guillaume Gallienne. Oui, alors... Moi, j'écoute ça dans la voiture, hein, quand je fais le trajet Strasbourg-Belfort pour aller voir mes parents. J'écoute Proust dans la voiture c'est formidable. Et quand j'arrive à Valentinier, qui est notre petit village natal, je reste encore sur le parking pendant 3-4 minutes pour terminer une phrase de Proust voilà, sur un CD.
Vous avez raison, Salem, parce que ce qui est extraordinaire avec Marcel Proust, c'est dans son œuvre, c'est qu'on peut la lire, on peut l'écouter chapitre par chapitre.
Oui.
Et on peut prendre le temps de lire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre la pression. C'est une œuvre qui est vraiment pratique à lire, mais de façon presque découpée, hein, en petits morceaux, et qui se prête finalement à une lecture finalement tranquille, sans forcément qu'on ait le fil de l'histoire tout au long de ces tomes, qui peuvent être un peu, comment dire, compliqués à lire pour des gens qui... Pour des néophytes,
oui, quoi. Mais vous savez, Ambroise, moi, j'ai aucun complexe, par exemple. Je commence un livre et je m'arrête en cours de route.
C'est très bien.
Et je le... Ah, vous êtes d'accord avec
moi? Moi, je ne peux pas le faire, mais je trouve que c'est admirable de pouvoir le faire. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Quand je commence, je suis obligé de terminer le livre.
Oui.
Ça, c'est peut-être mon côté un peu égocentrique, mais bon...
Oui, mais ça, c'est... Tous les journalistes sont comme ça et tout. Mais vous savez... Je ne peux pas le dire comme ça tellement publiquement parce que au conseil municipal, on est en train de construire une nouvelle médiathèque au port du Rhin. Ce sera un gros bateau, hein, on peut le dire comme ça. Et on va essayer de faire en sorte que les gens qui viennent ne viennent pas qu'une seule fois pour voir commencer, emprunter un DVD et puis repartir et tout. On va essayer de les inciter de prendre l'habitude de revenir. Donc la constance... Hein, avoir la persévérance de continuer. Donc si je leur dis « Ah, vous pouvez commencer un bouquin et l'arrêter en cours de route », je ne suis pas sûr que ce soit une bonne incitation. Mais oui, la persévérance, c'est quelque chose qui peut être dispersé.
C'est une qualité, hein, aussi.
Oui. Mais en même temps, commencer plusieurs bouquins en même temps, pourquoi pas. Ouais. Hein, c'est bien.
Qu'est-ce que vous avez lu récemment, Salem? Est-ce qu'il y a un ouvrage qui vous a tout récemment touché ou perturbé peut-être dans la lecture?
Je me doutais bien que vous alliez me poser cette question. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Et je ne vous répondrai pas, je n'ai pas le temps. Je vais vous dire, et je vais vous épater, et je prie les auditeurs de Radio J de penser que c'est vrai, je suis en train de lire Kant. Je vous vois sourire. Alors, c'est pas parce que je l'ai loupé en terminale et que j'étais un mauvais élève.
C'est un auteur difficile, Salem, vous le savez.
Ah ben, c'est bien pour ça que je me suis attaqué à cela. Mais en fait, je triche un peu, je ne lis pas Kant. Je lis un livre de quelqu'un qui a lu Kant. Ouais. Le bouquin s'appelle « Kant à la plage ».
Un livre de vulgarisation.
De vulgarisation, de Francis Métivier. Et... lire La raison pure, assis dans un transat, l'été, place du château, sous la cathédrale, je trouve ça très chic. Alors, je vais vous dire, Ambroise, j'ai fait un petit... Quand même, comme je suis un élu, on me connaît un tout petit peu, j'ai mis une couverture autour du bouquin, parce qu'une photo de moi sur Facebook, en train de lire Kant...
Ça fait prétentieux, quand même.
Oui, ça aurait fait prétentieux, mais en fait, c'est vraiment bien. C'est quelque chose de très stimulant. C'est toujours pareil, c'est une histoire un peu de travail. On rentre dedans et tout. C'est comme le latin. On va du latin, on va dire, mais si on apprend le latin et tout, ça devient bien. C'est comme le vin. Boire du vin, on va dire, oh ben, tous les vins se ressemblent et tout. Si vous faites un stage d'œnologie, et après vous allez faire la différence entre un Bordeaux et un Bourgogne, mais surtout vous allez apprécier un pommard, par exemple. Le pommard, pourquoi je cite le pommard, cher Ambroise? Vous le savez, vous le spécialiste de Madame Bovary. Mais c'est le vin que Flaubert a servi au banquet du mariage de Madame Bovary. Alors, Flaubert ne l'écrit qu'avec un seul M. Alors, vous voyez que j'ai bien lu...
Vous avez très bien lu, Madame Bovary.
Ah, j'ai adoré, je vous l'ai déjà dit. Oui. Mais donc, j'ai lu Kant, et écoutez...
Bravo, parce que c'est un philosophe difficile.
Oui, et il n'est pas passé par Strasbourg, je crois, mais c'est...
Pas à ma connaissance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu de cette lecture?
Oh.
Ou bien c'est juste pour frimer?
Ah oui, non, c'est pas pour frimer, mais je suis pas à la radio pour passer un examen. Mais c'est pareil, on est dans une école, dans une époque... Philosophe des Lumières, mais j'ai utilisé le mot école comme ça, comme un lapsus, parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Et comme on se fait tout le temps critiquer, bien sûr... il faut arriver à se liguer et à penser que étendre toutes ses connaissances, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour progresser. Comme à l'époque des Lumières, où tout d'un coup on disait « Mais oui, il y a d'autres gens dans le monde entier qui ont écrit des choses formidables, lisons-les et essayons d'appliquer ce qu'ils nous disent pour rendre le monde meilleur. » Eh bien, ce serait un crime contre la nature humaine que de ne pas faire cette démarche. Et donc, d'essayer d'être un meilleur conseiller municipal pour pouvoir apporter le plus de choses possibles à mes concitoyens, je sens que c'est quelque chose qui n'est pas du temps perdu et je le fais avec beaucoup de plaisir.
Alors, moi, je connais un petit peu Kant et je me souviens d'une des premières formulations du développement durable d'Emmanuel Kant.
Ah ben, dites-moi.
Je voulais que je vous la cite, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. « Une époque ne peut se liguer et jurer de mettre la suivante dans un état où il lui sera nécessairement impossible d'étendre ses connaissances et en général de progresser dans les lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine. »
Oui.
C'est beau.
Ah ben, c'est beau. Alors, je dois dire, en tant qu'invité à la radio, de voir un journaliste qui... rebondit aussi vite, prend son téléphone qui ne fait pas de bruit et va vite chercher une phrase de Kant sur Wikipédia pour se moquer de son invité. Bravo, j'apprécie beaucoup. Oui, eh bien...
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Eh bien, écoutez...
À part Emmanuel Kant, dans la littérature...
Je lis les comptes rendus des conseils municipaux et puis j'ai lu... un vieux prix Goncourt, alors quand je dis vieux, ça date de 2018, de Nicolas Mathieu.
Vous le lisez en ce moment?
Oui, je le lis en ce moment, parce que c'est un livre qui parle beaucoup de l'enfance. C'est un livre... j'écoute beaucoup Léo Ferré. Le majuscule ennui qui nous sclérose. Et ouais. C'est un bouquin qui parle un petit peu de cela. Et moi, je suis confronté lorsque je vais dans les médiathèques, les bibliothèques. Je vois les gamins dans une bibliothèque avec un rayon de bouquins derrière eux et ils sont sur leur smartphone en train de faire des jeux vidéo. Et ça m'embête un peu, ça. Alors, c'est pas à moi de faire le papa, ni le flic, ni je suis conseiller municipal. Mais si j'arrive à faire en sorte que les enfants laissent tomber leur iPhone pour se plonger dans un livre, je me dis que mon rôle de conseiller municipal, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Eh bien, Salem Drissi, merci beaucoup. Ça a été formidable d'inverser nos rôles. Et cette émission va maintenant se terminer sur cette évocation formidable de la lecture à Strasbourg. C'était, vous l'avez bien connu, Monsieur Livre, c'est moi, émission numéro 44. Et aujourd'hui, nous avions comme invité Salem Drissi. Vous l'avez bien connu, une émission diffusée tous les mardis à 11h30, rediffusée le dimanche à midi. Et à la technique aujourd'hui, c'était Thomas Marinelli. Et mon nom est... Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.